Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Nazareth, Saint Vincent de Paul, Sainte Mère Teresa, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous approchons de la Semaine Sainte. Dimanche prochain, avec toute l'Église, nous entrerons dans ce temps où nous vibrerons d'une manière particulièrement intense au mystère de la Passion et de la Résurrection du Christ. Là est le cœur de notre foi. Oui, la croix, quel mystère! Aussi surprenant que cela puisse nous paraître, aussi choquant, voire révoltant que cela puisse provoquer chez celui qui n'a pas les yeux de la foi, il faut nous écrier « La croix, quelle splendeur, quel trésor, quelle prédication, prédication unique de l'infini de l'amour de Dieu pour toute l'humanité et pour chacun d'entre nous, qui que nous soyons. » Jésus nous l'a clairement affirmé. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et l'Évangile précise bien que Jésus parle alors non pas à ses seuls apôtres et disciples, mais à tous, donc à nous. Le Père Le Prévôt, fondateur de notre congrégation, l'avait bien compris, lui qui écrivait: le bien-aimé, en entrant sous notre toit, y viendra avec sa croix. C'est son seul trésor, c'est tout ce qu'il possède et apporte à ses hôtes. C'est son livre, c'est sa science pour les enseigner, c'est sa force pour les aguerrir et les former, qu'il soit le bienvenu et sa croix avec lui. Il ne saurait y avoir de vraie vie chrétienne sans union intime à la Passion du Christ. Plus j'avance, disait encore le Père Le Prévôt, plus je vois que la patience, l'acceptation courageuse et résignée des croix est la vertu par excellence pour un chrétien. Prier, communier, faire des œuvres saintes et charitables est parfait, mais souffrir avec amour, en union avec le divin Sauveur, est plus parfait et plus méritoire encore. Souffrir et être humilié de bon cœur, c'est le résumé de la doctrine de Jésus-Christ. Dans notre première conférence de carême, nous avons médité sur l'importance de nous laisser toucher et retourner par le Christ venu nous sauver. Nous avons admiré le cheminement de conversion de Vincent de Paul et Mère Teresa. Dans la deuxième conférence, nous avons été encouragés à donner nos cœurs comme ces deux grands saints ont su le faire par une charité en acte envers les pauvres. Ce soir, il s'agit pour nous de voir combien Vincent de Paul et Mère Teresa, parce que convertis, parce que totalement donnés, ont été jusqu'à l'union intime avec Jésus livré, Jésus crucifié, Jésus offert pour nous sur la croix. Les textes de ces deux géants de la charité sont bien différents. Nous en avons relativement peu sur ce qui est du domaine intime du cœur de Saint Vincent de Paul, ce cœur que nous avons eu la grâce de vénérer ici, dans cette église, il y a à peine quelques jours. Il y a par contre abondance de matière chez Mère Teresa, où les écrits ne manquent pas des lettres confidentielles à ses pères spirituels et confesseurs, publiées seulement après sa mort. Je la citerai donc plus abondamment que je ne le ferai pour M. Vincent. Mais pour l'un comme pour l'autre, c'est bien le même élan de cœur livré, de cœur uni à la passion du Sauveur. Nous suivrons Jésus dans l'offrande de sa vie. N'ayant pas le temps de tout aborder, je me centrerai sur diverses étapes, puissent-elles nous préparer à nous unir nous aussi à ce grand mystère d'amour de ce Dieu qui se livre pour notre salut et le salut du monde. Il s'agit d'abord de regarder Jésus livré dans l'ordinaire de son quotidien. Jésus est venu pour sauver, son nom le dit. Du jour où il quitte Nazareth pour proclamer la bonne nouvelle du salut, il se livre sans compter. Il est celui qui n'a pas de pierre où reposer la tête. Il est celui qui ne s'épargne pas, ne s'économise pas. Rappelons-nous ce passage évoqué dans saint Marc au chapitre 6. On nous raconte que les apôtres, à leur retour de mission, disent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus prend la parole, s'adresse à eux. « Venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » De fait, dit saint Marc, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient même pas le temps de manger, et donc Jésus non plus. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les villes on accourut là-bas, à pied, et on les devança. En débarquant, Jésus vit une foule nombreuse, et il en eut pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à les enseigner longuement, l'heure étant déjà très avancée, nous dit l'Évangile, suit le miracle de la multiplication des pains. Voilà le rythme de la vie de Jésus lorsqu'il faut proclamer la bonne nouvelle. Si nous regardons la vie de saint Vincent, sans cesse, il est par les chemins, à pied ou à cheval. On peut se faire une idée de son programme par cet extrait d'une lettre à Louise de Marillac. « Je viens, écrit-il, d'arriver, et m'en va partir pour Pontoise, pour revenir demain soir, et repartir le lendemain pour auprès de Dourdan, où j'espère être de retour jeudi ou vendredi de la semaine prochaine. » Il n'arrête pas. Quand il séjourne à Saint-Lazare, on nous dit qu'il est debout à 4 heures du matin. Il est en oraison à l'église, à genoux une heure durant, avant de dire sa messe, puis d'aller vaquer à ses occupations, réunions diverses, visites des malades ou des prisonniers. Toujours à jeun, car le premier repas, le dîner, est pris à 10h30. Et on nous dit lecture du bréviaire, puis repas, et ainsi jusqu'à 18h. Après une dernière visite au Saint-Sacrement, il se retire dans sa chambre, une petite pièce sans cheminée, meublée d'une simple table de bois avec deux chaises et un lit sur lequel est posée une grosse paillasse. Ni matelas, ni tapisserie pour arrêter les courants d'air qui, l'hiver, passent à travers les cloisons, mal jointées. Une abondante correspondance l'y tient tard éveillé, bien après qu'a sonné à 21h le couvre-feu. Souvent, et les témoins le disent, il est tellement fatigué qu'il s'endort sur sa table en écrivant une dernière lettre à la lumière d'une chandelle. Il ne s'économise pas, il n'est pas donné à demi. Le rythme de vie de Mère Teresa n'est pas beaucoup plus reposant. Ses sœurs témoignent, elle a dû endurer le martyre. Ses longs voyages dans des trains surpeuplés, uniquement en compartiment de troisième classe. Ces marches quotidiennes jusqu'au bidonville, dans la poussière et la saleté, la fatigue, la faim, la soif, l'absence de toute intimité. La porte de sa chambre était toujours ouverte. Pas un ventilateur, même au plus chaud de l'été. De petites pièces, de petites chapelles, un lit en fer étroit et dur, tout cela sans jamais une plainte. Elle disait seulement presque chaque jour, tout pour Jésus. Au cours de ses voyages, de ses longs voyages, disent ses sœurs, elle arrivait parfois à destination après minuit. Mais cela ne l'empêchait pas d'être debout à 4h40 le matin, la première à la chapelle, pour les prières du matin, et prête à exécuter ses tâches exigeantes de la journée. Et cet emploi du temps continua presque jusqu'à sa mort. Voilà des vies qui sont livrées. Livrées parce qu'il s'agit d'aimer, de se donner. Livrées comme la vie de Jésus dans son quotidien. Nous connaissons suffisamment les évangiles pour savoir que dans sa vie au quotidien, Jésus se donne et il va même être ému de compassion, bouleversé vis-à-vis des malades, vis-à-vis des pécheurs. Rappelons-nous, un lépreux vient à lui, le supplie et s'agenouillant lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Et l'évangile dit « Ému de compassion, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Jésus a un cœur, il se laisse toucher jusqu'à l'émotion la plus profonde. Cette dimension va ô combien résonner dans le cœur de Saint Vincent de Paul et de Mère Teresa. Saint Vincent de Paul écrit, ou dans une conférence qu'il donne plus exactement à ses missionnaires, soyons donc miséricordieux, mes frères, et exerçons la miséricorde envers tous, en sorte que nous ne trouvions plus jamais un pauvre sans le consoler, si nous le pouvons, ni un homme ignorant sans lui apprendre en peu de mots les choses qu'il faut qu'il croie et qu'il fasse pour son salut. Ouvrons quelques instants le livre de la vie de Saint Vincent de Paul, parcourons-le, étudions-le. C'est un évangile, une bonne nouvelle, un message d'espérance et de vie. Qui voyons-nous d'abord ? Un cœur qui vibre au diapason du cœur de Jésus. Un cœur livré pour les petits et les pauvres, un cœur d'amis et de pères. Un cœur qui brûle et qui brille, un cœur qui aime de l'amour même de Dieu. Les petits, les pauvres, nous le savons, à cette époque, ils sont légions. Ils sont exilés, prisonniers, affamés, rongés par la maladie, abandonnés, miséreux, ravagés par les épidémies et les guerres, s'amassant, pourrissant et expirant dans l'indifférence de trop de grands de ce monde. Des pauvres qui ne savent où aller ni que faire, qui souffrent et qui se multiplient chaque jour. « C'est là mon poids et ma douleur, » dit M. Vincent. Ces petits, ces pauvres, ce sont sa terre, son pays, son trésor, sa famille, ses frères, ses amis. Il les connaît, il les aime. Nous savons combien Jésus a été touché, bouleversé par ces foules nombreuses qui le suivaient, qui avaient faim non seulement du pain de ce monde, mais qui avait faim d'une parole de vie. Les pauvres, disait M. Vincent, qui ne savent où aller ni que faire, qui souffrent déjà et qui se multiplient tous les jours, c'est là mon poids et ma douleur, les pauvres qui se damnent et meurent de faim. Alors on comprend que M. Vincent exhorte par la suite, ces missionnaires, ces prêtres, membres de la congrégation de la mission qu'il a fondée, que les prêtres s'appliquent aux soins des pauvres. Est-ce que cela n'a pas été l'office de notre Seigneur et de plusieurs grands saints qui n'ont pas seulement recommandé les pauvres, mais qui les ont aussi eux-mêmes consolés, soulagés et guéris. Les pauvres ne sont-ils pas les membres affligés de notre Seigneur? Ne sont-ils pas nos frères? Et si les prêtres les abandonnent, qui voulez-vous qui les assiste? De sorte que s'ils s'en trouvent parmi nous qui pensent qu'ils sont à la mission pour évangéliser les pauvres et non pour les soulager, pour remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je réponds que nous les devons assister et faire assister en toutes les manières, par nous et par autrui. Si nous voulons entendre ces agréables paroles du souverain juge des vivants et des morts, venez les bien-aimés de mon Père. Possédez le royaume qui vous a été préparé parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai été nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez assisté. Faire cela, c'est évangéliser par parole et par œuvre et c'est le plus parfait et c'est aussi ce que notre Seigneur a pratiqué et ce que doivent faire ceux qui le représentent sur la terre. Pendant plus d'un quart de siècle, de part et d'autre des frontières du royaume de France, les provinces vont être ravagées, les populations soumises aux exactions des forces armées des deux camps. Et monsieur Vincent va avoir un cœur qui vibre, qui se donne sans compter, qui se livre à ses pauvres. On cite entre autres qu'en 1640, l'afflux vers Saint-Lazare, ce sont les Lorrains. Et le bruit courait à Paris, il faut que monsieur Vincent soit Lorrain lui-même pour faire tant de bien aux pauvres Lorrains. Nous le savons, monsieur Vincent était du sud de la France, pas de la Lorraine du tout. Pourtant, on disait de lui, il faut qu'il soit Lorrain lui-même pour faire tant de bien aux pauvres Lorrains. Il ne faisait qu'un avec son peuple. Le peuple mène une vie sous-humaine, les mendiants se multiplient, les moribonds se traînent, on nous dit, comme des lézards sur les charniers. Alors M. Vincent est saisi de pitié, ses entrailles frémissent, son cœur vibre. « Si le pauvre est malade, dit-il, je le suis aussi. S'il est en prison, j'y suis. S'il a des fers aux pieds, je les ai avec lui. » Bouleversé par les pauvres qui se damnent et meurent de faim, bouleversé par l'ignorance religieuse et les misères physiques et spirituelles de son temps, M. Vincent va consoler, oui, consoler le pauvre peuple pour lequel il est saisi de pitié, comme Jésus avait été saisi de pitié. Passons à Mère Teresa. Mère Teresa qui, bien sûr, va avoir aussi ce regard de foi qu'avait M. Vincent. « Il nous faut les yeux d'une foi profonde, écrivait-elle, pour percevoir le Christ dans le corps brisé et les vêtements souillés sous lesquels se cache le plus beau des fils de l'homme. Nous devrions avoir les mains du Christ pour pouvoir toucher ces corps abîmés par la douleur et la souffrance. » L'amour extrême ne se mesure pas, il se contente de donner. Et elle ajoutait en insistant, si les pauvres meurent de faim, ce n'est pas parce que Dieu les néglige, c'est parce que ni toi ni moi ne sommes assez généreux, c'est-à-dire assez livrés, assez donnés. C'est parce que nous ne sommes pas des instruments d'amour dans les mains de Dieu, parce que nous ne reconnaissons pas le Christ quand, une fois de plus, il nous apparaît dans l'homme affamé, dans la femme esselée, dans l'enfant qui cherche un âtre où se réchauffer. Un touriste américain a donné ce témoignage. « J'observais Mère Teresa depuis un bon moment, confie-t-il. Elle lavait le corps atrocement mutilé d'un lépreux dont les plaies répandaient une puanteur insupportable. Rappelons-nous Jésus dans son contact avec les lépreux. Il aurait dû se tenir à distance. Ces lépreux étaient des parias de la société. Ce touriste américain continue « À la fin, je ne pus m'empêcher de dire à Mère Teresa « Même pour 5 000 $, je ne pourrais pas toucher un lépreux. » « Moi non plus, » répondit-elle spontanément. « Ni même pour 10 000 $. Mais pour l'amour de Dieu, je le fais volontiers. » Mère Teresa vibrait. Elle était consciente de ses pauvres, endurant les plus terribles souffrances, qui étaient dans les ténèbres. Elle vibrait avec eux. Mère Teresa soutenait alors qu'il valait la peine de passer par toutes les souffrances possibles juste pour une seule âme, et de tout donner juste pour celle-là, parce que celle-là procurerait une grande joie au cœur de Jésus. Nous voyons Jésus sur les routes avec un cœur qui vibre, un cœur qui est touché, qui est ému. Nous voyons Vincent de Paul, Mère Teresa, de même. Dans cette vie de Jésus livrée au quotidien, nous savons aussi que Jésus va aller jusqu'à pleurer. Il pleure sur Jérusalem. Quand il fut proche, à la vue de la ville, nous raconte Saint Luc au chapitre 19, il pleura sur Jérusalem en disant « Ah, si en ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. » Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure, nous l'avons entendu hier, sur son ami Lazare qui est mort. Par deux fois, dans l'Évangile, il nous est précisé que Jésus fut saisi d'émotion, qu'il fut bouleversé et donc même qu'il pleura. C'est beau un cœur qui pleure, surtout quand c'est le cœur de Dieu. Vincent de Paul a pleuré, « J'ai peine de votre peine. » Qu'ils sont beaux ces mots. « J'ai peine de votre peine. » Et il s'écriait quoi ? Être chrétien et voir son frère affligé sans pleurer avec lui ? Sans être malade avec lui, c'est être sans charité, c'est être chrétien en peinture, c'est n'avoir pas d'humanité, c'est être pire que les bêtes. Pleurer avec ceux qui pleurent. Ce que fit Jésus avec Marthe, Marie et leurs amis qui étaient là à pleurer la mort de Lazare. Mère Teresa pleurait. Et elle l'atteste, elle l'écrit. Parlant des bad people, Mère Teresa dit, c'était en 1979, la mer, l'océan, est devenu un calvaire à ciel ouvert où se revit la passion du Christ. On se demande comment les gens peuvent tant souffrir sans jamais se briser. En les regardant, je sentais une douleur physique jusque dans mon cœur. Et elle va écrire une lettre magnifique à deux grands de ce monde, qui n'était autre que George Bush et Saddam Hussein. C'était en 1991, alors qu'allait se déclencher cette guerre en Irak. « Cher président George Bush et Saddam Hussein, je viens à vous les larmes aux yeux. Les larmes aux yeux. Et l'amour de Dieu dans le cœur pour plaider devant vous la cause des pauvres et de ceux qui vont devenir pauvres si la guerre que nous redoutons et craignons tous éclate. Je vous supplie de tout cœur de travailler dur à la paix de Dieu et de vous réconcilier. Je viens à vous au nom de Dieu, du Dieu que nous aimons, pour supplier au nom des innocents, de nos pauvres de ce monde et de ceux qui deviendront pauvres à cause de la guerre. Ce sont eux qui vont souffrir le plus, parce qu'ils n'ont aucun moyen de s'échapper. Je plaide devant vous leur cause à genoux. Ils vont souffrir, et alors nous serons coupables de ne pas avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir pour les protéger et les aimer. Je plaide devant vous la cause de ceux qui deviendront orphelins, veuves, isolés, parce que leurs parents, maris, frères et enfants auront été tués. Je vous en supplie, sauvez-les. Je plaide pour ceux qui seront infirmes et défigurés, ce sont des enfants de Dieu. Quel cri du cœur, un cri du cœur qui est fait avec, nous dit-elle, les larmes aux yeux. Jésus, qui a été livré dans ce quotidien de sa vie sur les routes de Palestine, va être aussi, bien sûr, Jésus livré et humilié. Jésus livré et humilié. Vincent de Paul s'est livré, il s'est donné, il s'unissait à Jésus qui souffre. D'où son insistance sur le fait de mettre ses pas dans les pas de Jésus jusqu'au bout, ce qui implique la mortification, l'union intime aux souffrances du Christ. Vincent de Paul écrivait « Si le Fils de Dieu en sa conversation paraissait si bon, combien plus a-t-il fait éclater sa douceur en sa passion ?» Ayons donc cet exemple et ne quittons jamais de vue la mortification de notre Seigneur puisque nous sommes obligés pour le suivre de nous mortifier après lui. Formons nos affections sur les siennes afin que ses pas soient la règle des nôtres dans la voie de la perfection. Les saints sont saints pour avoir marché sur ses traces de Jésus, pour avoir renoncé à eux-mêmes et s'être mortifiés en tout. Et de manière très concrète, saint Vincent exhortait ses missionnaires. Il disait, comme tous les jours, il faut remonter une montre de peur qu'elle ne se détraque. De même, il faut toujours nous mortifier en quelque chose de peur de tomber dans le relâchement. Disons à la maladie quand elle se présentera, à la persécution si elle nous arrive, aux peines extérieures et intérieures, aux tentations et à la mort même, soyez les bienvenus, faveur céleste, grâce de Dieu, saints exercices qui venaient d'une main paternelle et tout amoureuse pour mon bien. Soyez les bienvenus. Et il poursuivait, voilà comme Dieu fait. Après que quelqu'un lui a rendu de notables services, il le charge de croix, d'affliction et d'opprobre. Oh, il faut qu'il y ait quelque chose de grand, que l'entendement ne peut comprendre dans les croix et dans les souffrances, puisque d'ordinaire, Dieu fait succéder au service qu'on lui rend les afflictions, les persécutions, les prisons et le martyre, afin d'élever à un haut degré de perfection et de gloire ceux qui se donnent parfaitement à son service. Une âme qui se mortifie, qui s'unit au Christ en sa passion, acquiert toutes sortes de vertus, et à chacun de ses sacrifices, il part de Dieu une onction qui la remplit de délices. Plus une âme s'avance dans l'amour de Dieu, plus elle fait de progrès dans l'amour des souffrances et des humiliations. C'est fuir son bonheur que de fuir les croix et les humiliations. Nous voyons combien M. Vincent voulait mettre ses pas dans ceux de Jésus jusqu'au bout, jusqu'à cette étape où Jésus est arrêté, questionné, jugé, humilié, traité comme moins que rien. Monsieur Vincent, de dire et de répéter qu'il faut mettre nos pas dans les pas de Jésus et que, bien sûr, quel que soit notre cheminement, nous aurons des épreuves, des persécutions, des souffrances, et que ce sera des bénédictions. Ce sera comme une onction qui nous vient de Jésus sur la croix. Mère Teresa ne tiendra pas un autre discours, elle ne cessera, elle, de répéter qu'il faut tout accueillir de Jésus et toujours, quelles que soient nos souffrances et nos épreuves, sourire à Jésus. Si Jésus est livré, humilié, nous le savons, il y a ce moment particulièrement intense de son agonie à Gethsémani. Ce sont ses souffrances intérieures, ses souffrances du cœur. Nous en connaissons tous. Nous ne pensons pas toujours à nous unir à l'agonie de Jésus à Gethsémani. Focalisés que nous sommes sur les souffrances physiques, les biens réels du Christ sur la croix, oubliant ses souffrances du cœur, ses souffrances intérieures. Vincent de Paul va connaître ses souffrances intérieures, entre autres à travers toutes les contrariétés, tous les échecs apparents, ces terribles nouvelles qui lui reviennent et qu'il doit offrir dans la foi. Que de contrariétés, que d'obstacles sur sa route. Pensons entre autres à ses fondations dans les pays de mission. Par exemple, la mission à Madagascar. Il y envoie des missionnaires, c'était un voyage, une navigation d'environ 6 mois. Il envoie les premiers missionnaires, et on nous dit que quasi aussitôt, il y a le décès de M. Gondré, de M. Nakar, et il ne reste de vivant que M. Bourdez. En 1656, Vincent reçoit une lettre de M. Bourdez qui lui annonce la mort des 3 missionnaires arrivés avec un précédent renfort. Alors on conseille à M. Vincent de mettre un terme à cette entreprise qui décime autant de ses prêtres. Quelle souffrance intérieure. Et pourtant, M. Vincent reste ferme. Sa foi intangible. S'adressant à ses missionnaires, il leur dit « Quelqu'un de cette compagnie dira peut-être qu'il faut abandonner Madagascar. La chair et le sang tiendront ce langage. Qu'il ne faut plus y envoyer. » Quelle tentation! Mais je m'assure que l'Esprit dit autrement. Quoi, messieurs, laisserons-nous à tout seul notre bon monsieur Bourdez? Et de nouveaux volontaires se proposent et partent dans cette île lointaine. Et ce n'est pas fini. Quelques années plus tard, monsieur Vincent envoie 4 missionnaires vers Madagascar, porteurs d'une lettre à l'intention de monsieur Bourdez, dont il n'a plus de nouvelles depuis 2 ans. Si vous êtes encore vivant, oh que notre joie sera grande lorsque nous en serons assurés. Et Vincent évoque la mort des 6 premiers missionnaires envoyés dans l'île et il en tire la leçon. Il semble, monsieur, que Dieu vous traite comme il a traité son fils. Il l'a envoyé au monde établir son église par sa passion. Il semble qu'il ne veut introduire la foi à Madagascar que par votre souffrance. Lorsque cette lettre arrivera à Madagascar, cela fera 2 ans que M. Bourdez est mort. Nous le voyons, M. Vincent est comme agressé par le malin, par des vues humaines, Il faut arrêter une telle entreprise. Non, dit-il. Pourtant, il a le cœur transpercé, il souffre terriblement de ces nouvelles qui s'enchaînent, qui s'accumulent. Dans le même temps, il y a des épidémies, entre autres la peste qui frappe la ville de Rome, puis celle de Gênes. Ces prêtres se dévouent auprès des malades, ils s'exposent, et sur les 8 missionnaires, 7 sont atteints, dont le supérieur. Un seul missionnaire a survécu. Jamais pourtant, il ne se décourage. La tentation pourrait être grande de se recroqueviller. Il résiste, il fait face aux événements, si dramatiques soient-ils. Nous retrouvons cette ténacité face aux combats, aux épreuves, aux tentations du malin chez Mère Teresa, sous un autre angle, avec d'autres facettes. Elle écrit « N'oublie pas », c'est comme si elle nous parlait. « Il nous a choisis, il, Jésus. Ce n'est pas nous qui l'avons d'abord choisi. Nous avons à répondre en faisant quelque chose de beau pour Dieu, quelque chose d'extraordinairement beau. Pour cela, il nous faut tout donner de nous, le plus de notre plus. Nous devons nous accrocher à Jésus, l'agripper, l'empoigner et ne jamais plus à aucun moment le lâcher. Nous devons tomber amoureux de Jésus. Jésus en agonie à Gethsémani, quelles que soient nos agonies, il n'est pas question de lâcher Jésus. Il faut nous agripper à lui. Mère Teresa l'affirmait, « Nul ne peut me détacher de Dieu », écrit-elle dans une lettre au père Van Exem. « Je lui suis consacré et comme tel, je désire mourir. » Et elle fait allusion à ce moment où elle quitte les sœurs de Lorette, voilà, pour fonder sa congrégation. « J'ignore ce que dit le droit canon en la matière, mais je sais que notre Seigneur ne permettra jamais qu'on le sépare de moi. Et il ne permettra non plus à personne de me séparer de lui. » Elle est accrochée. À Jésus, à Gethsémani, Jésus ne s'est pas détourné de son Père. Malgré la violence des agressions du malin, malgré l'intensité de la tentation, Jésus reste profondément uni à son Père. Il ne se sépare pas de lui. Le malin va vraiment tenter Mère Teresa. Je vous la cite. Aujourd'hui, c'est des mots dans son journal, il date de 1949. Aujourd'hui, j'ai appris une bonne leçon. La pauvreté des pauvres doit souvent être tellement dure pour eux. Quand je suis parti à la recherche d'une maison, elle quittait les sœurs de Lorette. Donc il fallait partir de rien. Quand je suis parti à la recherche d'une maison, j'ai marché et marché jusqu'à en avoir mal aux jambes et aux bras. J'ai pensé combien eux aussi doivent avoir mal au corps et à l'âme quand ils cherchent une maison, de la nourriture, de l'aide. Alors la tentation a grandi. Les bâtiments luxueux de Lorette me sont venus d'un seul coup à l'esprit. Toutes les belles choses et le confort, les gens auxquels ils sont associés, tout en un mot. Tu n'as qu'un mot à dire et tout cela sera de nouveau à toi, répétait le tentateur. C'est la nuit obscure de la naissance de la congrégation. Mon Dieu, écrit-elle, donnez-moi le courage maintenant, en ce moment, de persévérer à suivre votre appel. On voit que la tentation était très très forte, que le malin l'agressait, cherchait à la détourner. Et elle poursuit, je suis devenu quelque chose de terrible pour Lorette. Que de jugement à son encontre. On me compare bien au diable. et l'œuvre à son œuvre du diable. Un jour, tout sera clair. Je suis reconnaissante à Dieu pour tout. Aujourd'hui, mon Dieu, quel tourment de solitude! Je me demande combien de temps mon cœur endurera cela. Mon Dieu, donnez-moi maintenant le courage de lutter contre moi-même et le tentateur. Ne me laissez pas revenir sur le sacrifice que j'ai fait de ma pleine volonté et avec conviction. Voilà des mots vraiment magnifiques. Voilà, nous le voyons, un combat rude mené par Mère Teresa. Si Jésus a connu l'agonie à Gethsémani, nous avançons. Jésus a été flagellé, couronné d'épines, crucifié. Vincent de Paul a connu la souffrance du corps dans un état quasi grabataire. Il apprend le 14 février 1660, quelque temps avant sa propre mort, la mort de deux êtres qui lui étaient particulièrement chers. Terrible épreuve. La mort de ce bon monsieur Portail et le 15 mars, le décès de Louise de Marillac, épuisée par 30 années de total dévouement aux pauvres et aux malades avec ses filles de la charité. Le dimanche 26 septembre, M. Vincent reçoit au milieu de sa communauté le sacrement de l'extrême onction, on l'appelait comme ça à cette époque, et après quoi il ne fait que répéter « Dieu, viens à mon aide » et le mot tout simplement de « Jésus ». Il professe sa foi, il bénit ses enfants. Et on nous dit que le 27 septembre, vers 4 heures du matin, à l'heure où habituellement il se levait, il entre en agonie. Voici ce qui est écrit à propos de sa mort. Il mourut dans sa chaise, près du feu, tout habillé, sans effort ni convulsion. L'agonie, loin de défigurer ses traits, semblait lui avoir donné une beauté et une majesté dont tout le monde s'étonnait. Ainsi meurt celui que les pauvres vénéraient comme leur père, celui qui, déjà gravé dans les mémoires du fait de ses services rendus aux pauvres, à l'Église et à la France, celui dont on a gardé mémoire jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Vincent écrivait: ressouvenez-vous que nous vivons de Jésus-Christ par la mort de Jésus-Christ et que nous devons mourir en Jésus-Christ par la vie de Jésus-Christ et que notre vie doit être cachée en Jésus-Christ et pleine de Jésus-Christ et que pour mourir comme Jésus-Christ, il faut vivre comme Jésus-Christ. Mère Teresa, à son tour, va s'unir toujours à Jésus à travers, elle, de terribles épreuves, et je vais la citer assez abondamment, plus largement dans cette partie. Elle raconte d'abord ce souvenir. Lorsque je revins au foyer à New York, l'état de l'un des malades du sida avait empiré. Il avait fallu l'hospitaliser. Nous allâmes lui rendre visite. Dès qu'il nous vit, il me dit « Mère Teresa, tu es mon amie. J'aimerais m'entretenir avec toi en tête à tête. » Les sœurs sortirent alors de la chambre et il commença à parler. Et qu'avait à dire ce jeune homme, lui qui depuis 25 ans n'était pas allé en confession, n'avait pas reçu la Sainte Communion et qui tout ce temps n'avait rien eu à voir avec Jésus. Ce fut pourtant lui que j'entendis me déclarer « Tu sais, Mère Teresa, quand j'ai une horrible migraine, je la compare à la douleur de Jésus lorsqu'on l'a coiffé d'une couronne d'épines. Quand une courbature s'empare de mon dos, je la compare à la douleur de Jésus lorsqu'il a été flagellé. Quand la névralgie gagne mes mains et mes pieds, je la compare avec la douleur de Jésus lorsqu'ils le crucifièrent. Maintenant, je te demande de me ramener à la maison. Je veux mourir auprès de toi. » Avec la permission du médecin, raconte Mère Teresa, je le fis transporter au foyer et là je l'installai dans la chapelle. Jamais je n'ai vu quelqu'un s'adresser à Dieu comme ce jeune homme le fit alors. Il y avait tant d'affection entre Jésus et lui. 3 jours passèrent avant qu'il ne mourût. On comprend que ça touche et que ça puisse bousculer. On comprend qu'un tel événement reste à graver à jamais dans la mémoire. Mère Teresa était une contemplative de la croix. « Je n'ai jamais eu honte de regarder la croix du Christ, » dit-elle. « Je n'ai jamais eu honte de regarder la croix du Christ jusqu'au jour où une jeune femme vint vers moi, son enfant dans les bras. Elle avait demandé un peu de lait pour son bébé à 2-3 couvents qui avaient gardé leurs portes closes. « Paresseuse, allez travailler, » lui a-t-on répondu. Puis elle est arrivée chez nous et m'a donné l'enfant. Il est mort dans mes bras. J'ai eu honte ce jour-là de regarder la croix. La croix, il faut pourtant sans cesse la regarder, s'en approcher, la saisir à pleine main, la serrer contre son cœur. C'est le lot de tout amoureux de Jésus. Mère Teresa a des lignes magnifiques à ce propos. « Il était une fois, raconte-t-elle, un petit rouge-gorge. Voyant Jésus sur la croix, voyant la couronne d'épines, il se mit à virevolter, allant et venant en vrille, pour arracher ne serait-ce qu'une de ses épines. Mais lorsqu'il s'en empara, ce fut pour en être lui-même transpercé. Chacun d'entre nous devrait être cet oiseau. Le rouge-gorge voulait seulement enlever une épine. Quand je regarde la croix, je pense à ce rouge-gorge. N'ignore pas la croix, elle est un lieu de grâce. » Et Mère Teresa, d'enseigner ce qu'elle vit, ce qui vibre au plus profond d'elle-même. Il est bon que la croix nous amène au calvaire et non pas à un salon, dit-elle. On croirait entendre le pape François. La croix, le calvaire a été très réel depuis quelque temps. Les offenses ne me font plus mal, mais ce qui me fait mal, c'est le mal que s'inflige la personne à elle-même en faisant cela. La souffrance, la douleur, l'échec sont tout simplement un baiser de Jésus, un signe que vous êtes arrivé si près de Jésus sur la croix qu'il peut vous embrasser. C'est magnifique. Si on regardait la souffrance, la douleur, comme ça, avec cet esprit de foi, la souffrance, la douleur, l'échec sont tout simplement un baiser de Jésus, un signe que vous êtes arrivé si près de Jésus sur la croix qu'il peut vous embrasser. C'est-à-dire, vous n'êtes pas à distance. Et Mère Teresa, de prendre une comparaison toute simple, très parlante pour nous tous, vos parents ont dû vous embrasser en signe de leur amour. Si je suis l'épouse de Jésus crucifié, il doit m'embrasser. Naturellement, les clous vont me faire mal. si je m'approche de la couronne d'épines, cela va me faire mal. Bien sûr. Vous le savez, Mère Teresa va sans cesse vouloir contempler la croix, être comme au pied de la croix, avec ces mots qui résonnent et qui sont inscrits dans toutes ces communautés. J'ai soif. S'approcher de la croix, c'est pouvoir entendre Jésus nous dire « J'ai soif ». Elle écrit à ses sœurs, les mots « j'ai soif » résonnent-ils dans notre âme? Aujourd'hui, essayons de penser ces mots « j'ai soif ». Savoir que Jésus a soif de notre amour, de l'amour du monde entier, est très important. Posez-vous la question, ai-je entendu Jésus me dire ces mots? Ai-je entendu ces mots personnellement? J'ai soif. Je veux ton amour. Si vous ne les avez pas entendus, demandez-vous, pourquoi ne les ai-je pas entendus? Et elle confie, mes enfants, vous ne savez pas quelle douleur terrible il y a dans mon cœur à l'idée de ne pas être totalement capable de répondre à la terrible soif que Jésus m'a demandé d'apaiser par l'intermédiaire de la congrégation et de chacune d'entre vous. Dans la passion de Jésus, nous savons qu'il y a un moment particulièrement intense, dramatique, déroutant presque. En sa passion, nous nous souvenons de ce cri jailli des lèvres de Jésus, cri qui nous ébranle quelque part, que nous entendrons dans la lecture de la passion. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La nuit. Et ces ténèbres de l'âme, Mère Teresa va les éprouver au plus profond d'elle-même pendant des années, des années, des années. Nous avons abondance de lettres, de textes, encore une fois, qui sont parus après sa mort. Et je vais me contenter d'en lire un certain nombre. Vous verrez combien on a ce mystère, mystère de ce qu'on va appeler la nuit des sens, la nuit de la foi, une union vraiment intime avec Jésus. Il y a une telle contradiction dans mon âme, écrit Mère Teresa. Un désir si profond de Dieu, tellement profond qu'il en est douloureux, une souffrance continuelle. Et pourtant, ne pas être voulu par Dieu, repoussé, vide, pas de foi, pas d'amour, pas de ferveur. Les âmes ne m'attirent aucunement, le ciel ne signifie rien. Pour moi, il ressemble à un lieu désert. L'idée du ciel ne signifie rien pour moi, et pourtant ce désir torturant de Dieu. Priez pour moi, s'il vous plaît, afin que je puisse continuer à lui sourire, à Jésus, en dépit de tout. Car je ne suis qu'à lui. Il a donc tous les droits sur moi. Je suis parfaitement heureuse de n'être personne même pour Dieu. Et elle va souffrir terriblement intérieurement au point de dire « Dieu ne veut pas de moi ». Écoutons-la. On dit que les gens en enfer souffrent une peine éternelle à cause de la perte de Dieu. Ils endureraient toute cette souffrance s'ils avaient juste un petit espoir de posséder Dieu. Dans mon esprit, je ressens exactement cette peine terrible de la perte de Dieu qui ne veut pas de moi, de Dieu qui n'est pas Dieu, de Dieu qui n'existe pas réellement. Jésus, s'il vous plaît, pardonnez mes blasphèmes. On m'a demandé de tout écrire. Cette obscurité qui m'entoure de tous les côtés, Je ne peux élever mon âme vers Dieu. Ni lumière, ni inspiration ne pénètrent mon âme. Je parle d'amour pour les âmes, d'amour tendre pour Dieu, les mots passent mes lèvres et je brûle ardemment d'y croire. Pourquoi travailler dur? S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus, vous non plus, vous n'êtes pas vrai. Le ciel, quel vide! Pas une seule pensée du ciel n'entre dans mon esprit, car il n'y a pas d'espérance. J'ai peur d'écrire toutes ces terribles choses qui traversent mon âme. Elles doivent vous blesser. Et elle écrit, elle continue d'écrire, c'est une longue lettre à son confesseur. Dans mon cœur, il n'y a pas de foi, pas d'amour, pas de confiance. Il y a tant de souffrance. La souffrance d'un désir brûlant, la souffrance de ne pas être voulu. Je veux Dieu de toutes les forces de mon âme, et pourtant là, entre nous, il y a une telle séparation. Je ne prie plus. Je prononce les paroles des prières de la communauté et essaie de toutes mes forces de puiser dans chaque mot la douleur qu'il a à donner, la douceur qu'il a à donner. Mais ma prière d'union n'est plus là. Je ne prie plus. Mon âme n'est plus une avec vous. Et pourtant, quand je suis seul dans les rues, je vous parle pendant des heures de mon ardent désir de vous. Dans l'appel, vous avez dit, Jésus, que je devrais beaucoup souffrir. 10 ans, mon Jésus. Dans l'appel, vous avez dit que, mon Jésus, vous avez fait de moi selon votre volonté. Et Jésus, entendez ma prière, si cela vous plaît, si ma douleur et ma souffrance, mes ténèbres et ma séparation vous donnent une goutte de consolation, mon cher Jésus, faites de moi comme il vous plaira, aussi longtemps qu'il vous plaira, sans un seul regard pour mes sentiments et ma douleur. Je suis à vous. Imprimez sur mon âme et ma vie les souffrances de votre cœur. Ne vous souciez pas de mes sentiments, ne vous souciez même pas de ma douleur. On voit cette terrible nuit de la foi. Ces mots, nous le voyons bien, sonnent lourds. Quel cœur véritablement crucifié par l'amour. Et on ne peut les comprendre et en pressentir l'intensité que si l'on est véritablement amoureux. Je cite encore Mère Teresa. Les ténèbres sont telles que je ne vois vraiment pas, ni avec mon esprit, ni avec ma raison, la place de Dieu dans mon âme est vide. Il n'y a pas de Dieu en moi. Quand la douleur de ce désir est si grande, je ne fais que désirer Dieu encore et encore. Et c'est là que je sens. Il ne veut pas de moi, il n'est pas là. Le ciel, les âmes, eh bien ce ne sont que des mots qui n'ont aucun sens pour moi. Ma vie elle-même semble si contradictoire. J'aide les âmes à aller où? Pourquoi tout ceci? Où est l'âme dans mon être? Dieu ne veut pas de moi. Parfois, j'entends juste mon cœur crier « Mon Dieu !» et rien d'autre ne vient. Cette torture et cette douleur, je ne peux les expliquer. Et elle précise, il y a des années, environ 17 ans maintenant, j'ai voulu donner à Dieu quelque chose de très beau. Je me suis engagé sous peine de péché mortel à ne rien lui refuser. Depuis, j'ai tenu cette promesse. Et quand parfois l'obscurité est très obscure et que je suis sur le point de dire non à Dieu, la pensée de cette promesse me fortifie. Je ne veux que Dieu dans ma vie. C'est magnifique, on pourrait multiplier ces passages. Ils sont encore une fois abondants. Mère Teresa, en 1996, va connaître comme sa dernière maladie. C'est une période où elle va être souvent à l'hôpital. Elle est littéralement clouée au lit, clouée sur la croix. Et on nous dit qu'elle voulait toujours avoir le Saint-Sacrement avec elle dans sa chambre. En août, elle eut une nouvelle crise cardiaque. Alors on lui introduisit un tube dans les poumons pour l'aider à respirer et soulager son cœur. Avant que les tubes ne soient enfin enlevés, on nous raconte que le médecin dit à un prêtre qui était là, « Père, allez chez vous chercher cette boîte pour mère. » Pendant un instant, avoue le prêtre, je me suis demandé, « Quelle boîte ? Une boîte à chaussures ?» Le médecin m'a dit, « Cette boîte, ce temple qu'ils apportent et mettent dans la chambre et que mère regarde tout le temps. » Si vous l'apportez et que vous la mettez dans la chambre, mère sera toute calme. Et j'ai compris, dit le prêtre, qu'il parlait du tabernacle contenant le Saint-Sacrement. Et le médecin, un médecin qui était hindou, a ajouté, quand cette boîte est là, dans la chambre, elle ne fait que regarder, regarder et regarder encore cette boîte. Mère Teresa effectuera sa Pâque le 5 septembre 1997 à l'âge de 87 ans. Nous sommes à quelques jours du dimanche de la Passion, dimanche des Rameaux. Nous nous apprêtons à entrer prochainement dans la Semaine Sainte, sommet de l'année liturgique, qui va nous immerger une fois de plus et avec une intensité particulière dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ. Par deux fois, le dimanche des Rameaux et le vendredi saint, nous entendrons le récit évangélique de la Passion du Christ. Si nous pouvions nous laisser davantage toucher, comme ce fut le cas pour M. Vincent et Mère Teresa, si nous pouvions davantage les méditer et nous laisser entraîner par le Christ, avec lui, jusqu'au pied de la croix, nous comprendrions certainement mieux alors que ce drame salvateur nous appelle de manière pressante à aimer comme Jésus, à nous donner comme Jésus, à nous livrer comme Jésus, à souffrir et mourir amoureusement comme Jésus. Je le rappelais à la fin de l'homélie hier, si nous souffrons avec Jésus, avec lui nous vivrons, si nous mourons avec Jésus, avec lui nous régnerons.